À vue d'esprit, Catherine Erard.
Zen, yoga, méditation transcendantale, les techniques de méditation d'origine extrême-orientale ont depuis quelques années déjà le vent en poupe. Aujourd'hui, c'est au tour des chrétiens de redécouvrir la méditation dans leur propre tradition. Aux racines chrétiennes de la méditation, une série proposée par Evelyne Auberçon et réalisée par Hélène Ichters. S'asseoir et rester en silence pendant 30 minutes n'est pas l'apanage des techniques de méditation orientale. Le christianisme a sa propre tradition en matière de méditation. C'est ce que nous allons découvrir avec vous tout au long de cette semaine. Evelyne Auberçon, bonjour.
Bonjour.
Alors si on parle de méditation chrétienne, au fait, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau?
Alors oui et non. Non, si on sait que dès les premiers siècles du christianisme, une prière personnelle intérieure a existé, qu'on peut se permettre aujourd'hui d'appeler méditation. Seulement, cette tradition ne s'est pas vraiment perpétuée en Occident, sauf peut-être dans les monastères ou au sein des ordres religieux. Par contre, cette tradition a vraiment perduré dans l'Église d'Orient, qui est aujourd'hui une Église orthodoxe.
Et qui est-ce qui est à l'origine de ce mouvement de redécouverte?
Alors, il y a des centres de formation chrétiens, comme le centre des jésuites Notre-Dame de la Route à Fribourg, qui propose des week-ends autour de la méditation chrétienne. Il y a des particuliers qui font cette redécouverte. Et puis, il y a carrément tout un mouvement comme celui que nous allons découvrir aujourd'hui. Il s'agit de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne. C'est une communauté qui connaît un grand essor depuis sa création dans les années 80. En Suisse romande, il existe déjà 4 groupes qui se réunissent une fois par semaine pour méditer ensemble.
Et vous avez rencontré un participant à un de ces groupes?
Alors, j'ai rencontré Catherine Charrière-Méchio. Elle anime des groupes. Mais là, je l'ai rencontrée chez elle, parce que la méditation, c'est d'abord une prière personnelle, quotidienne, chez soi, tout seul. Elle médite depuis près de 25 ans. Je vous propose de vous rendre chez elle à Dully, dans le canton de Vaud. Elle va nous expliquer comment elle pratique la méditation 2 fois par jour et surtout les fruits qu'elle en retire personnellement. Catherine Charrière-Méchio.
Je vais vous montrer, j'ai réussi à me créer un petit espace pour la méditation. J'ai ici une icône avec une bougie que j'allume. Et puis ensuite, je m'installe ici sur mon coussin.
Catherine Charrière, combien de temps durent vos méditations?
Alors, normalement, ça dure une demi-heure. J'essaie de faire une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. C'est vrai aussi que des fois, il y a quelque chose qui se passe avec mes enfants ou un empêchement. Donc, j'essaie de faire en tout cas 20 minutes pour chaque méditation. Disons que le temps idéal serait entre 20 et 30 minutes de méditation.
Vous pouvez nous décrire ce lieu où vous méditez 2 fois par jour?
C'est un lieu très petit qui fait peut-être 2 mètres sur 2, sous les toits, donc il y a un toit en pente. C'est vrai que j'arrive juste à m'asseoir par terre, si je voulais une chaise, je devrais être un petit peu en dehors. Et dans ce lieu, j'ai mis une icône avec une croix aussi, et puis une bougie. En fait, j'ai simplement essayé de créer quelque chose d'un peu sacré pour moi. Et j'ai mon coussin de méditation, j'ai aussi mon gong que je sonne au début et à la fin de ma méditation.
Et puis votre téléphone?
Et puis mon téléphone portable pour mesurer le temps. Oui, ça c'est très important parce que autrement, si on n'a pas quelque chose qui mesure le temps, on va toujours ouvrir ses yeux pour voir quelle heure il est ou si le temps a passé. Donc c'est très important d'avoir quelque chose qui mesure ce temps.
Et donc 20-30 minutes, c'est le temps idéal pour faire quoi finalement?
Oui, alors 20-30 minutes, c'est le temps qui est nécessaire, je crois, pour essayer de peut-être juste à la fin toucher un moment de ce silence, parce que c'est vrai que ce qui va se passer pendant les 20 ou 30 minutes, ça va être des pensées en continuation qui viennent. Donc il ne s'agit pas de lutter avec ces pensées, parce que les pensées seront toujours là, mais simplement de porter son attention ailleurs, de ne pas se concentrer sur toutes les pensées qu'on a. Mais il faut avoir un outil sur lequel on peut porter son attention, et cet outil, c'est le mot de prière. Et comme je médite selon les enseignements de John Maine nous recommandait de répéter la parole Maranatha. Maranatha. Et ce mot Maranatha est un mot en araméen, enfin la langue que parlait Jésus, et il signifie « Viens Seigneur » ou « Le Seigneur vient ». C'est une parole qui ne nous amène aucune image. Et c'est le but de la méditation. Disons que le travail qu'on va faire durant cette demi-heure, c'est de répéter cette parole, ce mot de prière. Et chaque fois que les pensées vont revenir dans notre tête, on va simplement repousser un peu ces pensées gentiment en se concentrant sur cette parole. Donc c'est vraiment l'idée d'écouter et non pas de parler, parce que c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de pensées qui sont très saintes et très belles et c'est une façon de prier aussi qui est tout à fait valable, mais c'est pas ce qu'on fait pendant la méditation. Et c'est grâce à cette expérience que chacun va vivre quelque chose de différent, mais entre autres, je crois, une plus grande approche de la Bible, une plus grande approche des paroles de Jésus, et aussi, en tout cas ça a été mon cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, un retour à l'Église avec un E majuscule, c'est-à-dire un retour, un endroit que moi personnellement j'avais abandonné parce que je comprenais pas le sens de tout ce qu'on me disait, ça n'avait aucun sens. Et maintenant, tout d'un coup, tout ça prend un sens.
Mais en même temps, Catherine Charrière, quand on vous entend, dans la technique même de la méditation, on a le sentiment que ça ressemble beaucoup à la technique zen, par exemple.
Il est vrai que la méditation, c'est une discipline qui existe dans toutes les religions. Donc elle existe chez les musulmans, elle existe chez les bouddhistes, enfin elle existe dans beaucoup de... C'est une pratique spirituelle universelle, disons. Et ce qui peut-être rend ma discipline ou ma pratique différente du zen est simplement ma foi. C'est-à-dire que je suis née dans une famille catholique, j'ai grandi avec ça. Et pour moi, c'est vrai que même au moment où j'ai eu des problèmes avec l'Église, je ne me suis jamais éloignée tellement loin parce qu'il y avait quand même quelque chose qui me tenait. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose. Et pour moi, ça a été une grande joie de découvrir que la méditation était aussi chrétienne parce qu'elle m'a permis de pouvoir prier de cette façon, mais dans ma tradition.
Si vous deviez décrire ce moment intime dans la méditation, qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les mots que vous pouvez utiliser pour nous dire ce qui se passe au moment où vous méditez?
Alors, beaucoup de personnes pensent que la méditation en elle-même est le moment le plus important. C'est là où on vit quelque chose de très fort et de très beau. Et enfin, je dois vous avouer que c'est pas vrai parce que la méditation est un travail. Donc, ça va être un travail de faire silence dans sa tête. Et ça n'est pas souvent qu'on peut vivre un moment très beau de silence. Mais ça peut être une fraction de seconde. Et ensuite, ça disparaît parce que immédiatement les pensées reviennent. Ce qui se passe, je crois, dans la méditation, c'est qu'avec cette pratique, les résultats ou les bénéfices, ou appelons ça plutôt les fruits de la méditation, vont être vécus à l'extérieur, pas au moment de la méditation. Les fruits de la méditation vont être les fruits de ce que Saint Paul nous parle quand il parle des fruits de l'esprit. Il dit l'amour, la paix, la générosité. C'est-à-dire que dans ma vie quotidienne, j'ai vu et je le vois encore que mon attitude face à certaines choses ont changé. Je vais peut-être moins juger les autres, je vais être plus tolérante, je vais aimer plus facilement, je vais ressentir la paix et la confiance. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est très important. Je suis encore quelqu'un de très soucieux et je me disais toujours oui, mais il faut absolument que je contrôle, et j'apprends avoir confiance, à me dire non, c'est pas moi, ma vie ne m'appartient pas, je suis un instrument et je dois simplement apprendre à écouter et avoir confiance. Donc je crois que c'est surtout ça les fruits de la méditation, plus que de parler de ce qui se passe dans la méditation elle-même. On a souvent peur que cette attitude est un espèce d'emprisonnement, alors que c'est tout le contraire. Parce que quand on commence à vivre en symbiose, si j'ai envie de dire ça, en symbiose avec Dieu, c'est-à-dire qu'on n'est plus nous à contrôler les choses, alors tout d'un coup, on a vraiment ce sentiment de liberté. Tout d'un coup, on se sent comme si on se sentait en harmonie. Voilà, pleinement soi-même, en harmonie. Et je crois que la méditation est un cheminement de connaissance vers soi-même. Grâce à cette répétition du mot prière, on apprend à lâcher ses pensées, mais petit à petit, on apprend aussi à lâcher toutes ces fausses personnalités qu'on s'est créées. Je crois qu'on apprend à aimer qui on est. Et ça m'a permis de vivre, je crois aussi, dans ma vie de couple, dans ma vie avec mon mari. Enfin, souvent, je me suis dit, si je n'avais pas eu la méditation, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais grâce à ma pratique, grâce à cet abandon, je crois que j'ai appris aussi à vivre mieux avec l'autre et accepter l'autre comme il est. Et puis se dire, bon, bah, cet être, il est comme ça, ça ne sera jamais un être parfait. D'ailleurs, on ne veut pas la perfection, c'est pas ce qu'on recherche. Mais l'amour, c'est ça qui transforme finalement. Et je crois que pour moi, la méditation, ça a été quelque chose de très fort parce que depuis toute jeune, j'ai toujours désiré amener quelque chose. J'avais envie de changer le monde, quoi. Je me disais, les choses ne fonctionnent pas, il faut changer le monde, mais je ne comprenais pas comment. Et pour moi, c'est une pratique qui peut amener à ça. Il faut que nous, on se transforme, qu'on se convertisse et ensuite, les choses peuvent changer.
Catherine Charrière, tout à l'heure, vous avez évoqué John Mayne, c'est qui ?
Alors John Mayne, c'est un moine bénédictin qui est né en 1926 à Londres. Son nom, c'était Douglas. Il a pris le nom de John quand il est devenu moine. Et c'est un homme qui a en fait redécouvert la méditation dans la tradition chrétienne. Et ça s'est passé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore moine, c'était un jeune homme, et il travaillait pour le service colonial britannique. Et il a été envoyé en Malaisie. Pendant qu'il était en Malaisie, on lui a demandé d'aller donner une lettre de remerciement à un moine hindouiste qui s'occupait d'un orphelinat. Alors John Mayne a amené cette lettre et il était très touché par cet homme. Il disait que cet homme irradiait une lumière particulière, c'était vraiment quelqu'un de particulier. Et ce moine lui a fait visiter l'orphelinat et là aussi il a été touché par le calme et la paix qui régnait dans cet orphelinat. Donc ils ont commencé à échanger. John Mayne lui a demandé comment ça se fait qu'il y avait cette paix. Alors le moine lui a dit, mais c'est grâce à notre façon de prier. Et là, il lui a appris la méditation. Il lui a dit, nous, on prie comme ça deux fois par jour. Donc John Mayne a été touché par ça et il a décidé de commencer à méditer de cette façon. Et pendant 18 mois, il allait chaque semaine voir ce moine qui lui donnait des enseignements sur la méditation. Mais ensuite, John Mayne disait que le seul enseignement vraiment qu'il lui donnait, c'était de répéter sa parole. Il lui disait, tout ce que je te dis de faire, c'est répéter ta parole.
Répéter ta parole, c'est-à-dire qu'il devait se trouver un mot qu'il devait répéter tout au long de la méditation.
Voilà, exactement. Il lui avait dit de trouver un mot sacré, une parole sacrée pour lui, dans sa propre tradition, et de répéter cette parole du début à la fin de la méditation. John Mayne est ensuite retourné en Angleterre. Il est devenu professeur, il est parti en Irlande et il est devenu professeur dans un collège là-bas. Et quelques années après, en 1959, il est allé à l'abbaye de Ealing à Londres où il est rentré au monastère. Il a voulu se faire moine. Et quand il était là-bas, en tant que novice, son maître de noviciat lui a demandé comment il priait. John Mayne lui a parlé de la pratique de la méditation et son maître de noviciat lui a dit d'abandonner tout de suite cette pratique qui, selon lui, n'était pas du tout chrétienne. Et John Mayne, qui était rentré en tant que moine bénédictin, donc dans l'obéissance, a décidé que c'était plus important d'obéir que de maintenir sa pratique. Donc, il a laissé sa pratique de côté pendant 14 ans. À un certain moment, il est parti à Washington, où il est devenu professeur dans un collège pour garçons. Et là, un jeune qui l'embêtait toujours avec un tas de questions sur le christianisme et les mystiques, l'a interpellé par rapport au Père du désert. Et John Maynes s'est remis à lire les Pères du désert. Et en lisant Jean Cassien, la conférence numéro 9 et la conférence numéro 10, il s'est rendu compte que Jean Cassien parlait de la prière continue. Jean Cassien disait « il faut qu'on prenne une formule », il appelait ça une formule, et il faut la répéter du début à la fin, tout le temps, il faut la répéter. Pour lui, c'était cette façon continue de prier.
Et Jean Cassien, c'était qui ?
Jean Cassien, c'était un des pères du désert. C'est-à-dire que Jean Cassien, il était parti dans le désert à la recherche de quelque chose d'autre, parce que lui aussi était insatisfait par rapport à ce qui se passait dans l'église. Et en parlant avec d'autres pères du désert, il a appris cette pratique de la prière continue. C'est lui, au fait, qui a amené cette forme de prière en Europe. Il est allé à Marseille, où il est d'ailleurs mort et enterré. Et c'est là que sa façon de prier a fleuri, c'est-à-dire qu'il nous a enseigné la prière continue.
Ça veut dire que dans la tradition chrétienne occidentale, et pas seulement orientale, mais la tradition occidentale, il y a eu un moment, tout un courant de méditation telle que vous la pratiquez aujourd'hui.
Oui, au début, les gens priaient de cette façon, c'est-à-dire que Jean Cassien l'avait amené, donc c'était une pratique qui existait, qui s'est perdue petit à petit pour avoir plus de place au mental, aux paroles, et, enfin, à tout ce qui était plus intellectuel, disons, qu'une pratique qui est très simple.
Et qui a disparu.
Et qui a disparu, petit à petit qui a disparu. Mais en même temps, c'est vrai que on retrouve dans plusieurs mystiques chrétiens cette pratique, c'est-à-dire que même Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Jean de la Croix, tous avaient quand même une pratique où le silence avait une grande place. Le don que nous a fait John Maine, c'est qu'en redécouvrant cette pratique, il s'est rendu compte que c'était une pratique qui était destinée à tout le monde, pas seulement aux religieux, pas seulement aux moines et aux sœurs qui sont dans les couvents, mais à toutes les personnes. Toutes les personnes avaient droit de vivre cet aspect contemplatif de la prière. Et il a voulu en faire une pratique simple. Donc, c'est là qu'il a lui-même décidé que c'était bien d'avoir une parole et que cette parole, ce serait bien que ça soit Maranatha. Donc ça, c'est un cadeau que lui nous a fait. Et il nous a dit, matin et soir, il faut prier de cette façon et rester dans la totale simplicité. Et c'est, je crois, ce qui m'a beaucoup attirée dans cette communauté et dans cette pratique de prière, c'est la simplicité de John Maine. Parce que c'est vrai qu'il existe d'autres pratiques de méditation. Jean-Yves Leloup, qui est du côté orthodoxe, mais parle aussi de méditation. Il y a même d'autres expériences, même en Suisse ou à Lausanne ou ailleurs, qui offrent cette possibilité de faire silence. John Maine avait été aussi beaucoup influencé par Thomas Merton, qui lui aussi parlait de prière contemplative. Je crois que son cadeau est cette simplicité. Et ce que John Maine disait, c'est que le seul maître de prière que vous avez besoin d'avoir, c'est quelqu'un qui vous répète de dire votre mantra, du début à la fin, de dire votre parole sacrée. Donc, c'est toujours ce retour à la simplicité. Et c'est, selon moi, ce qui est difficile à nous d'accepter. Les gens ont beaucoup de problèmes à comprendre qu'une prière si simple peut nous amener à une telle ouverture ou à une telle profondeur. Parce qu'on est des personnes compliquées, on a besoin de choses complexes. Alors, c'est pour ça qu'on retourne à des techniques qui soient un peu plus compliquées, un peu plus complexes, parce qu'on a besoin d'avoir des choses où notre mental puisse s'accrocher. Alors que c'est tout le contraire. On doit laisser partir notre mental.
Catherine Charnière, vous avez évoqué John Mayne qui redécouvre la méditation chrétienne comme faisant partie de notre patrimoine culturel occidental. Entre cette redécouverte et aujourd'hui la communauté qui regroupe des personnes du monde entier, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, quand John Mayne a repris sa méditation, c'est-à-dire que en 1974, il rentre à Londres et il fonde le premier centre de méditation chrétienne. Ensuite, il sera appelé à aller à Montréal où il va créer le premier prieuré. C'était un prieuré. Il l'a transformé en un centre de méditation. Et là, la communauté était très petite. Disons de 1977 à 1982, qui est l'année de sa mort, la communauté naissait à peine. C'était vraiment quelque chose de tout petit. Mais John Mayne avait déjà la vision de créer une communauté. John Mayne disait que la méditation et le silence pouvaient créer une communauté d'amour. Et lui était convaincu de la création de cette communauté d'amour. Quand il décède en 1982, Lawrence Freeman, qui est maintenant notre directeur spirituel, le directeur spirituel de la communauté mondiale pour la méditation chrétienne, Lawrence Freeman reprend le flambeau et lui-même dit qu'il n'avait jamais pensé que s'il avait un jour su que la communauté aurait été aussi grande, peut-être qu'il n'aurait pas dit oui à ça parce qu'il s'attendait, il s'y attendait pas du tout. Mais ce qui se passe, c'est que tout de suite après, le prieuré doit fermer. Malheureusement, ils ne peuvent pas continuer l'activité là-bas. Mais ils décident, en 92, la communauté est créée en tant que, disons aussi du point de vue légal, on forme cette communauté. Et là, les gens commencent à venir de partout. Et Lawrence Freeman s'est rendu compte de la puissance de la soif. Surtout, je crois qu'il s'est rendu compte de la soif que les gens avaient de vivre quelque chose de plus contemplatif dans leur foi, dans leur religion. Et là, les gens commencent à venir de partout dans le monde. Et petit à petit, il a fallu créer une structure qui puisse faire que la méditation chrétienne, comme enseignée par John Mayne, se maintienne dans son intégrité et qu'elle ne se transforme pas.
Catherine Charrière, lorsqu'on médite, c'est parfois l'occasion pour certaines personnes de redécouvrir des choses qu'ils avaient cru cachées dans leur vie. Des fois, c'est des choses belles, des fois, c'est des choses plus difficiles. Comment est-ce que vous gérez, justement, quand des personnes vivent des moments difficiles dans leur méditation ou qu'ils traversent des périodes très, très dures ? Qui les accompagne ?
Alors, c'est vrai que durant la méditation, beaucoup de choses peuvent se passer. Alors, il peut avoir des choses très belles, mais des choses aussi qui ne sont pas réelles. Enfin, c'est-à-dire des choses qui viennent du ressenti et qui peuvent être, par exemple, j'ai eu des gens des fois qui me disaient « Ah, mais j'ai l'impression de voir une lumière, j'ai l'impression de voir des étincelles » ou je sais pas. Alors, ça, le rôle de l'animateur de groupe est simplement de ramener la personne à un plan plus terre à terre, enfin en disant bon, d'accord, peut-être que c'est ce que tu as ressenti, mais maintenant c'est bon, c'est juste quelque chose qu'on ressent dans la méditation, il faut abandonner ça et retourner à la parole. Donc il y a toujours quand même l'importance de retourner dans quelque chose de très concret qui est cette répétition de la parole, dans ce travail. Maintenant, il est aussi vrai que comme c'est un pèlerinage vers quelque chose d'intérieur, il peut avoir des choses qui ressortent, qui sont des expériences du passé, qui peuvent être des expériences très douloureuses. Alors là, c'est là que le moment du partage à la fin de la méditation est important, parce qu'on laisse à cette personne la possibilité de s'exprimer tout en l'écoutant. Je crois que l'écoute est la chose principale. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui donner des conseils à cette personne parce qu'on n'est pas là pour conseiller, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais on est là simplement pour laisser la personne vivre ce qu'elle doit vivre. De toute façon, s'assurer qu'on ne laisse pas la personne partir dans la nature avec quelque chose de douloureux, quelque chose avec lequel elle ne peut pas continuer à vivre comme ça. Mais je crois que chacun doit être ensuite responsable de soi-même. Et c'est très important, là, la ligne est très fine entre devenir un espèce de thérapeute ou de gourou pour l'autre, ce qui n'est pas du tout notre rôle, pas du tout. Lawrence Freeman a écrit un très beau livre qui s'appelle « Jésus, le maître intérieur », où il est très clair que chacun a ce maître intérieur à l'intérieur de lui, donc on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Bien sûr que c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui nous aide sur le chemin, donc d'avoir un conseiller spirituel, si on en a un, c'est très bien. Mais le conseiller spirituel doit être vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il fait et non pas qui devienne une personne qui peut manipuler. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que la présence de la communauté ou la présence de personnes qui sont vraiment ancrées dans la méditation et qui savent de quoi ils parlent est très importante pour pouvoir justement être sûr que les personnes qui animent les groupes ne partent pas à la dérive dans quelque chose qui n'est pas du tout l'enseignement de John Maine.
Catherine Charrière-Metchio, membre de la Communauté mondiale pour la méditation chrétienne, un mouvement qui compte plusieurs groupes en Suisse romande, Evelyne Auberçon.
Oui, il y en a à Genève, à Versoix, à Lausanne, à Comté, en Valais. Il existe aussi un site internet où vous retrouverez beaucoup plus d'informations. Nous l'avons mis en lien sur la page d'A Vue d'Esprit.
Est-ce que c'est un mouvement œcuménique ?
Alors totalement, même si c'est vrai que la communauté est née dans un terreau catholique, elle a rapidement une dimension œcuménique avec aussi une grande ouverture aux autres religions. Nous en reparlerons jeudi avec le témoignage d'un couple dont le mari est catholique et sa femme musulmane.
Et demain, est-ce qu'on va continuer de découvrir cette méditation chrétienne ?
Alors, on va continuer de la découvrir, mais dans sa tradition et sa version orthodoxe avec Michel Maxime Egger, puisque c'est dans la tradition orthodoxe que la méditation s'est perpétuée, une tradition qui est encore très vivante et qui s'appelle « Prière de Jésus » ou aussi « Prière du cœur ».
Merci Evelyne, on se retrouve demain à 16h30. Ainsi s'achève cette émission d'Evelyne Auberçon dans cette série à vue d'esprit intitulée « Aux racines chrétiennes de la méditation ». Nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode intitulé « La méditation dans la tradition orthodoxe ». Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre page internet rts.ch/esprit. Et puis, dans quelques minutes après les informations, vous retrouvez Daniel Robella et « D'un air entendu ». Il est 17h sur Espace 2.